Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Avec moi dans le studio, un poète, écrivain estonien qui participe à cette édition 2015 du Festival Est-Ouest, monsieur Jan Kaplinski, et Isabelle Catois qui est venue l'accompagner pour compléter avec le programme de la présence de monsieur Kaplinski dans ce fameux Festival Est-Ouest. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, monsieur Kaplinski, peut-être commenceriez-vous par vous définir, parce que j'ai dit poète-écrivain. Est-ce que c'était satisfaisant comme définition? Je sais que les poètes n'aiment pas beaucoup les auto-définitions.
Oui, mais formellement, je ne sais pas. Peut-être un poète, c'est presque la même chose qu'un écrivain, parce que étymologiquement, peut-être en Grèce, je ne sais pas, peut-être tous les écrivains étaient aussi des poètes, le même mot, je ne sais pas. Mais quant à moi, il me semble que qu'un jeune homme, un adolescent, il commence assez souvent par écrire de la poésie. Et moi, j'ai découvert la magie ou la puissance de la littérature comme telle, justement, grâce à la poésie, et plus exactement, grâce à la poésie russe de Mikhaïl Lermontov. Je peux même dire quel de ses poèmes m'a influencé tellement. C'était le poème qui s'appelle « Vazdushny Korabl », c'était le navire volant, ou le vaisseau volant, un poème sur l'esprit de Napoléon. Bien. J'ai commencé par la poésie, en lisant, en commençant à écrire de la poésie peu à peu. Et plus tard, j'ai même écrit un roman qui n'est pas traduit en français, c'est traduit en anglais, parmi autres langues. Mais j'ai écrit aussi beaucoup d'essais sur un peu. Chaque écrivain est un peu philosophe aussi pour trouver le sens de ce qu'ils font de la vie, pour ainsi dire. Mais c'est la vie, il faut toujours gagner sa vie. J'ai une grande famille, plusieurs enfants et petits-enfants, etc. Et alors, j'ai dû travailler pour plusieurs années comme journaliste, et pour quelques années, comme c'était un temps de chaos et un temps de pauvreté en Estonie, j'ai écrit pour la plupart du temps pour les journaux finlandais. C'est tout court, c'est ma biographie d'un écrivain.
Est-ce que vous avez l'impression, justement, pour nourrir cette nombreuse famille dont vous parlez, d'avoir vendu votre âme à un tantinet? Souvent, les poètes, ils veulent rester très honnêtes. Ils veulent ne faire que ce qu'ils veulent pour ne pas décevoir leur muse, leur source d'inspiration.
Eh bien, pour moi, la vie a toujours été plus importante que la littérature, la philosophie et la poésie. C'est la vie qui est une valeur absolue. Et alors, toute autre chose, la poésie est un moyen de trouver le sens de la vie, ou comment le dire, de comprendre ce que c'est que la vie que nous vivons. Et avec l'aide de le moyen de la poésie, on peut assez souvent découvrir quelque chose qui est tout simplement de trouver des choses, parfois des petites choses qui tout d'un coup révèlent leur, leur valeur ou leur, je ne sais pas. La vie se transforme un peu dans les yeux, mais peut-être aussi dans les mots de la poésie d'un poète. Je l'espère que c'est comme ça.
Vous me dites que le poète, le fait de faire de la poésie, en tout cas, ça lui permet de comprendre le sens de la vie. Mais est-ce que cet autre métier que journaliste permet cela ou pas?
Oui, pour moi, comment le dire? Je suis un... On dit que je suis un bon écrivain, eh bien, c'est à autre décider. Mais je suis un mauvais lecteur, je dois le dire. Honnêtement, je lis assez peu. Et mon idée ou mon justification d'être un mauvais lecteur, c'est ce que... Eh bien, la vie, c'est ce qui est le premier, l'essentiel. Ce qu'on fait de la littérature, c'est on prend quelque chose de la vie. Mais il me semble que si la littérature devient un cercle clos, on fait de la littérature de la littérature, on est toujours dans la compagnie des écrivains, des poètes, on discute tout le temps la poésie et la littérature. Pour moi, ce n'est pas ça. J'ai d'autres intérêts. Je suis un peu naturaliste, un peu plus qu'un peu, c'est ma éducation, je suis linguiste. Et j'essaie de travailler un peu d'écrire sur les choses pas très intéressantes pour un outsider comme le grammaire, l'étymologie, les langues fenno-ougriennes, etc. Mais pour moi, tout peut devenir un input dans le cybernétique. Et le résultat, le output, ça peut être la poésie. Mais aussi un article, un peu de journalisme. La différence n'est pas si essentielle et si profonde.
Vous avez beaucoup parlé de vie, d'essence même de la vie, et vous avez dit aussi que vous étiez naturaliste. Alors, quelles sont vos sources d'inspiration principales?
Mes sources d'inspiration sont très différentes. Il y a une petite chose, un petit événement, tout d'un coup, se révèle, me dit quelque chose, comment l'expliquer. Je vais passer tous les jours d'un coin de la rue ou d'un édifice, je peux voir une fleur, un arbre, de discuter, pour ainsi dire, avec mon chat. Et tout d'un coup, une idée vient, ce qu'on appelle l'inspiration. Il y a un recueil de poésie que j'ai écrit. C'est pour la plupart ce que j'ai commencé à écrire au printemps et j'ai fini avant l'hiver. Et c'est presque chaque soir j'ai écrit un petit poème. Et assez souvent, c'était justement ce que j'ai fait pendant le jour. J'avais fait pendant le jour. Que j'ai travaillé dans le jardin, j'ai promené avec mon petit-fils, nous avons regardé le ciel, je lui ai expliqué où est Jupiter, etc. Tout d'un coup, c'était possible de transformer cette vie quotidienne en poésie. Mais c'est fini avec l'hiver, tout d'un coup, pas tout d'un coup, mais même peu à peu, j'ai commencé à comprendre qu'il faut en finir, que ça ne vient plus. Ça serait un peu forcé et pas tellement convaincant, pour ainsi dire.
Donc ça veut dire que dès les mois d'hiver, vous cessez de faire de la poésie.
Oui.
Parce que c'est trop noir, c'est trop sombre, et vous avez un problème avec l'hiver.
Oui, oui, honnêtement, et ça devient de plus en plus un problème. La vieillesse, c'est devient de plus en plus difficile de supporter le long hiver, l'hiver qui est vraiment avec cette obscurité, le jour qui ne dure que 5 heures, etc. J'essaie de trouver un moyen de passer une part de l'hiver quelque part dans le midi. Au Portugal, par exemple.
Est-ce qu'il faut une qualité particulière pour transformer la vie quotidienne en poésie ? Parce que vous avez parlé de magie tout à l'heure. Il faut un œil magique. Tout le monde n'a pas cette capacité de transformer la vie quotidienne en poésie.
Je ne sais pas. C'est l'inspiration que j'ai mentionné, le mot. C'est ça, mais il me semble qu'il est très difficile ou même impossible d'expliquer ce que c'est que l'essence, ce qui est le plus important, ce que fait de la poésie, la poésie. C'est justement là. C'est là ou non. Parfois, je le sens très clairement que c'est, je peux écrire, il faut que j'écrive. Et par la plupart du temps, je ne le sens pas. Alors, c'est mieux de ne pas écrire, si c'est possible. De ne pas écrire de la poésie pour gagner sa vie. Ça serait un peu une trahison ou quelque chose comme ça. La poésie, c'est autre chose. C'est comme par religion, mais enfin. Nous, les poètes, nous sommes les descendants, les héritiers d'une très... des anciennes traditions. Même dans la période antique, on considérait le poète comme vates, comme une espèce, je ne sais pas, pas exactement prophète, mais un clairvoyant, je ne sais pas comment le traduire, l'expliquer. Mais nous sommes aussi des descendants des chamans. Aussi, le chaman, ce qu'il faisait, il chantait une chanson qui était parfois une chanson qu'il a composée lui-même. C'était une chanson magique, une chanson où il adressée aux esprits, au pouvoir d'un autre monde. Une espèce de communication avec l'autre. L'autre dans le sens plus spirituel, comme ainsi dire. Et c'est quelque chose de tout ça, c'est préservé dans la poésie.
Donc il rend visible l'invisible, peut-être.
Oui, on peut le dire comme ça. La présence de quelque chose.
Quelque chose qui nous dépasserait, qui est incompréhensible, ou en tout cas qui est partout tout en n'étant pas explicable.
Probablement non. Mais je ne sais pas, je suis aussi un scientifique de l'autre côté. Mais la science moderne nous a prouvé qu'il y a des problèmes qui sont en principe insolubles. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec les nombres, avec les formules. Ou avec les algorithmes, pour ainsi dire.
C'est la fameuse expérience du chat de Schrödinger, vous connaissez peut-être ?
Ah, oui, 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 le chat.
Oui. Donc le chat qui est dans sa boîte tout en n'étant pas dans sa boîte. Mmh. Si on ne le voit pas, on ne peut pas savoir s'il est dedans ou pas, il pourrait être dedans ou pas. Enfin bref, c'est de la physique quantique.
Oui, c'est un exemple. Il y a peut-être des meilleurs, mais Enfin, je ne suis pas physicien, mais j'avais un grand intérêt pour la physique moderne, quand même.
C'est compatible d'être scientifique et poète ? Justement, scientifique, c'est carré, rigoureux. On dit scientifique. Et la poésie, c'est l'inspiration. Ça passe par des petits trous.
Vous savez, les poètes sont aussi c'est de la pédanterie. Et c'est travailler avec les mots, les peser, de trouver le mot plus exact, c'est aussi... Ce n'est pas un tel bois, papa, tellement... Dans la poésie, il faut avoir beaucoup de clarté. Clarté d'expression, travail avec le contenu, la signification, les mots, la phonétique, c'est de la pédanterie, comme la science. Et enfin, nous avons des ancêtres vénérables. Par exemple, le célèbre poète iranien Omar Khayyam, qui était aussi un des plus fameux mathématiciens de son temps, qui a travaillé avec les questions de troisième degré. Il a fait quelque chose de très important et avec le calendrier qu'il a émandé. Ça. Eh bien, pour moi, si on pense aux grands scientifiques de 20e siècle, leurs pensées, leurs écrits, parfois, on trouve là aussi de la poésie.
De la clarté, comme vous dites.
Oui.
J'ai lu dans votre biographie que non seulement vous vous intéressiez à l'essence des choses, mais aussi aux spiritualités orientales. Vous avez trouvé des réponses à ces questions de sens de la vie dans les spiritualités orientales ?
Oui, le sens de la vie, j'ai employé cette expression, mais... Autrement, je ne l'aime pas exactement parce que je ne sais pas si la vie est
la
vie comme en elle-même. Il a un sens intrinsèque. Ils ne peuvent pas chercher le sens de la vie. Ne peut pas le chercher que dans la vie elle-même. La vie a son propre sens, pour ainsi dire. Mais en ce qui concerne, soi-disant, spiritualité orientale, mon approche est un peu plus prosaïque, peut-être. Comme linguiste, je me suis intéressé aussi. J'ai travaillé un peu avec les langues sémitiques. Connaissance assez limitée, mais quand même de l'arabe classique, de l'hébreu. Mais ce que j'aime vraiment, mais que mon misérable mémoire visuelle n'a pas permis d'apprendre comme il faut, c'est le chinois classique. Et j'ai la poésie classique chinoise, si c'est spirituel ou non. C'est aussi une poésie de la vie de tous les jours. À propos, ça m'a donné beaucoup. Mais aussi la lecture des textes bouddhistes et taoïstes. J'ai même traduit en estonien peut-être le texte le plus célèbre de la Chine ancienne, c'est le Tao Te Ching de Lao Tse. Avec l'aide des autres traductions, des dictionnaires, etc. Je l'aime beaucoup. Il y a là quelque chose qui me plaît, qui m'est tout à fait... Si on parle de la philosophie, je peux dire que Lao Tse, spécialement Chuangzi, c'est ma philosophie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il me semble que dans la philosophie de Wittgenstein, il y a indirectement quelque chose qu'il a pris de Chuangzi.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il aurait pris précisément?
Eh bien, la spiritualité, la culture chinoise a tellement influencé l'Europe. Pour moi, Voltaire, par exemple, il était vraiment un Confucien. L'influence du confucianisme chinois, c'était un des principales forces qui a permis, principal facteur de composant du siècle des Lumières en Europe. C'est Voltaire et les autres avaient lu les rapports des jésuites et tout d'un coup, ils ont compris qu'une autre culture est possible et ça existe. Et c'est une culture, vraiment, ce n'est pas des nobles sauvages, mais vraiment, c'était des gens très, très éduqués qui avaient une attitude totalement différente envers la religion et tout ça, mais quand même, c'était une grande civilisation. Et ça a bouleversé quelque chose en Europe.
Je vois, toujours dans votre biographie, que non seulement vous vous intéressez à la poésie, vous êtes un scientifique, vous êtes un linguiste, mais aussi vous avez analysé différents aspects du totalitarisme communiste.
Oui, c'est un peu trop solennel. Comme journaliste, j'ai dû écrire sur ce que nous avons, sur notre expérience de ce qu'on appelait le communisme ou le régime soviétique. J'ai beaucoup écrit aussi pour les éditions, pour les journaux en étranger. Et j'ai aussi dans ma prose que j'ai écrit des récits et dans mon roman, c'est là. On ne peut pas en échapper parce que c'est une expérience tellement importante dans notre vie, de ma génération. C'est la littérature vraiment analyse quelque chose ou décrit, j'essayais de le faire.
Vous avez fait cela alors que vous étiez encore dans le système communiste ou est-ce que vous l'avez fait après parce que ça aurait pu vous causer quelques tracas?
Oui, quand le régime était encore là, sans doute c'était impossible de l'analyser, de le critiquer ouvertement, mais c'était possible de l'analyser, d'essayer de le comprendre. Nous devions, dans l'université comme étudiants, nous devions travailler avec les textes soi-disant classiques du marxisme-léninisme. J'ai lu beaucoup de Marx, de Engels, de Lénine, etc. Et aussi les documents officiels publiés par les journaux soviétiques. Et je pense que j'ai compris quelque chose. J'ai compris ce que voulait dire Marx, Engels. J'ai compris peut-être Lénine. C'est bien différent, c'est un autre monde. Et j'ai compris ce que s'est passé dans l'Union soviétique, l'évolution du système dès la révolution, ce qui est fini par ce qu'on appelait la stagnation et la sénilité d'un régime, d'une idéologie qui a perdu sa vitalité, son attraction, qui est devenue totalement vide.
Vous avez été impacté par vous personnellement? Le oui, fait de vivre dans ce système vide, ça a dû quand même vous faire souffrir
ou... Oui, et on avait le sentiment que quelque chose doit se passer, que ça ne peut plus durer comme ça. Alors, c'est venu Gorbatchev et tout ce qui s'est passé dans l'Union soviétique, que l'Union soviétique a vraiment cessé d'exister. Pour quelques-uns, ce n'était pas tellement inattendu, une telle surprise.
Et là, maintenant que l'Estonie est entrée dans l'ère capitaliste, est-ce que vous trouvez que c'est mieux?
Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment mieux. Ce que je peux visiter la France. Je peux vivre ici comme un homme libre, sans devoir écrire des comptes rendus de mes rencontres, etc. Pour moi, c'est tellement important. Parce que mon père et ma mère, je suis très bien un Européen, parce qu'il avait habité, il avait fait les études en Europe, en Allemagne, en Suisse, en France. Et pour moi, pour des décennies, c'était exclu. Je ne pouvais pas aller en Europe. J'avais 44 ans quand j'ai, pour la première fois, a pu visiter un pays qu'on appelait capitaliste. C'était pour 5 jours en Finlande, accompagné par les gens que nous savons qui étaient les agents de notre fameuse police secrète, que je connais, mais nous savions, et eux et moi, que ce n'était plus si sérieux. Mais quand même, il était là. Mais maintenant, je suis ici. Je pense à ce qu'il faut peut-être en avenir louer une chambre ici, de passer quelques... C'est possible. Mais de l'autre côté, le pouvoir de l'argent, que tout est calculé en euros, en dollars, que ma poésie aussi, et la culture, tout devient un moyen, quelque chose qu'il faut absolument... transformé en argent, en quelque chose qu'on peut gagner. Il y a là, parfois j'ai aussi le sens que ça ne peut pas durer trop longtemps, que quelque chose doit arriver. Une autre attitude envers la vie. Que la vie est importante, pas l'argent. L'argent est important quand même, oui, c'est ça. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes, ont une valeur absolue. L'argent a une valeur pas absolue, relative. Je ne sais pas l'expliquer, mais il y a d'autres choses aussi. C'est superficialité de le journalisme. Le meilleur temps pour notre journalisme, c'est sûrement le temps de transition du système soviétique au système capitaliste. Maintenant, le journalisme, il faut écrire, et la tendance de devenir passe-temps, entertainment.
The show must go on.
Et la civilisation, pour moi, ça devient de plus en plus infantile. Il est plus en plus difficile de trouver quelque chose vraiment sérieux.
Petite question subsidiaire. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à Di en ce moment?
Il y a plusieurs raisons. De commencer par la raison la plus prosaïque, de gagner un peu d'argent. Mais l'autre raison, je ne connais pas cette région. Et c'est tellement intéressant. J'ai vu les photos, et alors aussi les gens. Et l'idée qui est devenue ce qu'était autrefois une autre culture, une autre langue, l'occitan, la civilisation provençale, les montagnes qui n'existent pas chez nous, et la possibilité de pratiquer mon français, qui est devenu malheureusement de plus en plus enrouillé, pour ainsi dire. Parce que tout le monde parle anglais, trop souvent, it's not anglais, mais plutôt bad English. Français, c'était ma première langue étrangère, autrefois.
Je suppose aussi que c'est à l'invitation du Festival Est-Ouest. Sait-on jamais?
Un petit peu, quand même.
Oui, c'était l'invitation, c'était pas mon propre initiative, c'était l'initiative des... Je ne sais pas, mais...
En tout cas, vous étiez suffisamment connu pour que Isabelle, ici présente, se penche sur votre cas et vous le propose.
Oui, alors on ne se penche pas forcément sur les cas, mais on se penche sur les livres, déjà, d'abord... avec une commission littéraire, puisqu'on est quand même plusieurs à lire tous les auteurs qui sont traduits du pays qu'on invite. Et effectivement, via aussi les traducteurs ou les maisons d'édition avec qui on a des contacts en France, voilà, on nous donne des pistes, forcément. Ils nous envoient en service de presse les ouvrages et on lit bien en amont. Et après, on va rencontrer nos invités dans le pays également. Donc, on a rencontré Jan Kaplinski à Tartu. Et ça a été pour moi un très beau moment. Et puis, enfin, comme vous l'avez vu en tous les cas dans tout ce qu'il peut dire, c'est un grand intellectuel, un grand poète, un grand idéaliste, pessimiste, mais un grand idéaliste quand même. Et je pense un grand humaniste aussi. Donc on est très très honorés de le recevoir. On a commencé une première rencontre avec lui, ça a ouvert le festival samedi à la Tour de Borne, avec Patricia Tardieu, autour d'une thématique langue et culture, ça a été un très beau moment. Voilà, et quelques personnes comme ça dans le refuge de la Tour. Et puis hier, il y a eu la lecture du Retour de l'âme qui sera publié en France en 2016. Donc un très bon poème, un très long poème qui a été dit par Harold, David. Voilà. Et toute la semaine, il y aura plusieurs rendez-vous avec Yann. Un des plus importants, ça va être jeudi après-midi au Théâtre de Die. Il y aura la projection du système Kaplinski, qui est un documentaire qui a été fait et réalisé par un jeune français qui s'appelle Raphaël Gianelli Meriano, qui sera présent. Donc à 15h, il y aura une rencontre à l'espace librairie avec Yann. Et ensuite, à 16h, il y aura la projection du film. Ça va être un chouette moment, je pense. Parce qu'entre ces deux-là, ils sont devenus amis, d'ailleurs, Yann et Raphaël. Donc je pense que ça va être très chouette. Et puis, dans la foulée, justement, si vous voulez connaître un peu l'histoire de l'Estonie, à 18h au Pestel, il y aura une conférence par un Estonien, hein, par un historien, Marek Tam, donc de l'histoire de l'Estonie. Et on finira la soirée avec Crosswind à 21h au cinéma Le Pestel, qui aussi marque bien une période importante de l'Estonie. Voilà, mais je ne vous en dis pas plus, un très très beau film vraiment à ne pas manquer par un jeune réalisateur qui sera présent aussi. Donc ça, c'est un peu la journée de jeudi après-midi autour de Yann et de l'Estonie. Et à 18h aussi à la médiathèque, vendredi, il y aura une rencontre autour de son œuvre. Là, on parlera plus intensément de littérature. Voilà. Et il y aura d'autres temps aussi, mais ça, regardez le programme, il est assez complet. Voilà, avec tous nos invités ce week-end, il y aura plein de temps de rencontres formelles et plus formelles. Voilà.
Alors Yann, si je peux me permettre, je vois qu'il y a un de vos livres de poésie qui s'appelle « Le désir de la poussière » qui a été traduit de l'estonien en français par Antoine Chalvin en 2012. Vous qui parlez le français, quand vous voyez vos poésies traduites en français, ça vous parle ?
Oui, absolument, parce que parmi les traductions que j'ai vues et que je peux lire, dont je peux avoir une opinion, les traductions d'Antoine Chalvin sont parmi les meilleures, sans doute. Vraiment, il a su de saisir quelque chose qui est vraiment essentiel et le traduire en français.
Antoine Chalvin qui sera présent sur le temps du festival également. C'est lui qui va nous parler de la littérature contemporaine estonienne et un peu de son histoire le vendredi matin. Et il fera aussi une conférence autour des Sétos, qui est une minorité du sud de l'Estonie. Voilà, donc il sera présent. Et ils vont parler aussi avec plusieurs traducteurs du métier aussi de traducteur justement et pourquoi ils ont eu envie de faire découvrir ces auteurs-là. Et ils ont de la chance d'avoir plusieurs vraiment traducteurs excellents, les Estoniens. Donc on a quand même beaucoup d'ouvrages qui sont traduits actuellement.
Non, parce que je m'imagine que déjà, faire de la traduction d'un roman, ça ne doit pas être facile. Mais de la poésie, comment ne pas perdre l'essence de la poésie en changeant de langue, ça ne doit pas être facile.
Non, si je peux me permettre, en fait, chaque année, on a cette problématique-là avec les poètes. Et même avec les romans, de toute façon, la problématique est la même. Il y a forcément une appropriation du poème et une interprétation du traducteur, même s'il essaye de garder l'essence, forcément par les mots et la structure ou le rythme, il essaye de reproduire en tous les cas. C'est difficile d'aller jusqu'au bout, en tous les cas, j'imagine, d'une traduction parfaite. C'est impossible. Parce que les mots sont différents, les sources linguistiques sont différentes. Mais en tous les cas, il a réussi, je pense, avec le retour de l'âme également, Vraiment très très bonne traduction.
Oui. Ouais. Oui.
Bien, Isabelle et Yann, merci d'être passés à Erdiwa pour parler de poésie estonienne. Je vous souhaite un bon festival SOS. À très bientôt.
À très bientôt et ne loupez pas l'inauguration du festival demain à 19h30. Et juste avant, au musée de Die, il y aura à 18h30 une présentation de l'exposition sur une minorité aussi estonienne, les Mulgi. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Interview. 1 Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.